À la chronique économie, c'est Michel Poitevin qu'on joint. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Michel est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal et aujourd'hui un sujet brûlant d'actualité depuis quelques temps déjà. La crise du logement qui continue d'occuper l'espace public parce que ça coûte de plus en plus cher pour se loger.
Oui, effectivement. Puis depuis de nombreuses années, on a l'impression qu'on paye de plus en plus cher. Puis ça s'est accéléré depuis un an ou deux. Le prix du logement a littéralement bondi au Canada, au Québec et même à Montréal. Cet été, le Devoir a publié une étude sur le prix du logement locatif pour les locataires au Québec en se basant sur des milliers d'annonces parues sur Kijiji. Ce qu'on retrouvait, c'est que sur un an, les loyers ont augmenté de 13 % au Québec. Ces logements, ce qui est une hausse énorme. Nous, on sait que l'inflation était plus autour de 5, 6 ou 7 %. C'est deux fois plus que l'inflation. Donc, c'est une grosse hausse. Et puis, le taux de roulement, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, est assez faible pour les logements abordables. Le taux de roulement, c'est à quelle fréquence on change de logement. En 2018, le taux de roulement était à 19 %. Donc, 19 % des logements abordables devenaient disponibles. Maintenant, c'est à 11 %. Donc, les gens déménagent moins, là. C'est sûr, quand on a un loyer qui est relativement abordable, bien, comme la hausse des loyers est contrôlée par le tribunal administratif du logement, bien, on a moins le goût de déménager.
C'est clair. Et puis, il y a moins de logements disponibles aussi.
Bien, effectivement. Puis du côté des propriétés, bien, c'est pas beaucoup mieux. Là. La presse a apporté une étude de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Puis on se rend compte que, bon, sans surprise, les maisons les plus chères se trouvent dans la région de Montréal, mais aussi dans les Laurentides, Saint-Adèle, Saint-Sauveur et Mont-Tremblant. Dans ces derniers cas-là, il y a sûrement des deuxièmes maisons, là, des résidences secondaires. Mais à Tremblant, les prix ont augmenté de 31 %. Juste pour vous donner une idée. Là. Si vraiment on voulait se loger à un prix abordable, il faudrait déménager à Baie-Comeau, qui est dans un des endroits où ça coûte le moins cher, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a le loisir de pouvoir faire un tel déménagement.
Aller vivre sur la Côte-Nord.
C'est ça.
Est-ce que
son charme.
Oui, ah oui, ça c'est sans aucun doute. Michel, est-ce que c'est une situation temporaire ou on s'attend à ce que ça perdure?
Ouf, malheureusement, les nouvelles sont pas très bonnes de ce côté-là. Encore une fois, la Société canadienne d'hypothèques et de logements, le mois dernier, a publié une étude sur la pénurie de logements au Canada, mais aussi la pénurie à venir. Donc, on essaye d'estimer le nombre nécessaire de nouveaux logements qui devraient être construits là, pour rendre le loyer moyen abordable d'ici 2030. Alors, c'est quoi le loyer abordable? C'est un peu technique, mais la part du revenu après impôt qu'un ménage moyen doit consacrer pour un logement moyen en 2004. Donc, 2004, on juge à peu près le point tournant là où la hausse de l'immobilier a commencé à prendre de l'ampleur. Donc on se base sur ce critère-là. On dit, bon, un ménage moyen en 2004 qui paye pour un logement moyen, voici la part de son revenu après impôt qu'il consacrait. Puis j'ai essayé de trouver cette part-là même dans l'étude originale de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, on la donne pas, là, ou en tout cas, je l'ai pas trouvé. Mais des fois, on parle de logement abordable. Pour vous donner une idée, ça serait 30 % de notre revenu avant impôt. Donc là, ici, on parle après impôt, donc c'est peut-être un peu plus que ça. Il faudrait voir, là, mais c'est quand même un bon montant qu'on consacrerait. Alors, pour atteindre ce niveau de prix-là comparable à 2004, on dit qu'il faudrait construire 3,5 millions de logements supplémentaires par rapport à ce qui est prévu au Canada. Puis au Québec, ce serait 860 000 qui devraient être construits d'ici 2030. Ce qui semble énorme.
Ah oui, énorme. C'est énorme, mais en même temps, tu dis que c'est mission impossible. Là. Mais qu'est-ce qui explique cette pénurie-là?
Un économiste le réflexe, on dit on va regarder du côté de l'offre et la demande. D'une part, c'est pas facile de faire ces prédictions. Là, d'ici 2030, c'est sur 7-8 ans, là, c'est pas facile. du côté de la demande. Qu'est-ce qui affecte la demande de logement? Et on a la démographie, les mouvements de population, donc l'immigration, la taille des ménages. Bon, elle ne changera pas trop sur 7-8 ans, là, mais l'immigration, j'y reviens dans un instant, oui, ça joue. Puis aussi, l'évolution des revenus des ménages, puis des taux d'intérêt. Évidemment, quand les taux d'intérêt augmentent, bien, certainement pour être propriétaire, ça nous coûte plus cher. Donc, c'est pas facile à prédire tous ces facteurs-là, mais quand on regarde, par exemple, du côté de l'immigration, on se rend compte qu'il y a une hausse marquée de l'immigration au pays depuis peut-être 1 ou 2 ans. Au Québec, par exemple, en 2023, on s'attend à avoir près de 200 000 nouveaux travailleurs non permanents. Puis, pour donner une idée de la taille, là, c'est le double de l'année record qui était 2022, qui avait 90 ou 95 000 travailleurs non permanents. Donc, évidemment, ce n'est pas des gens qui déménagent pour de bon ici, mais qui en viennent travailler de façon temporaire ici, mais ils ont quand même besoin de se loger, ces gens-là.
Ben oui.
Et puis, également, bon, ça, c'est un facteur probablement temporaire, mais il y a eu l'arrivée massive d'Ukrainiens au pays. On sait pourquoi, là, depuis 2022, là, qui a aussi marqué la demande de logement. Au niveau des taux d'intérêt, bon, on le sait, les taux d'intérêt hypothécaires ont beaucoup augmenté à cause de la politique restrictive de la Banque du Canada. Mais de façon plus large, les économistes commencent à s'interroger sur l'évolution des taux d'intérêt à long terme, là, les taux d'intérêt qu'on appelle réels, lorsqu'on en déduit l'inflation. On a eu une période, peut-être les 20 dernières années, où le taux d'intérêt réel était très faible, là, proche de zéro. Là, c'est-à-dire que le taux d'intérêt réel était peut-être, par exemple, à 2,5%, 3%, alors que l'inflation était à 2. Donc, quand on soustrait les deux, on tombe à 1,5%, 1% de taux d'intérêt réel à long terme. Puis là, on se demande si on ne tombera pas dans une période où les taux pourraient être à 2,5% ou peut-être même 3, ce qui aurait effectivement un impact là, sur la demande à long terme de logement.
Et du côté de l'offre?
Ben, c'est ça. Donc ça, c'était du côté de la demande. Du côté de l'offre, qu'est-ce qui affecte l'offre de nouveaux logements? Ben, en gros, c'est la construction. Puis pour construire, ben, ça prend de la main-d'œuvre. On dit qu'elle est rare, les salaires augmentent. Le coût des matériaux qui diminue pas. Puis également, les entrepreneurs sont affectés par les taux d'intérêt. Quelqu'un qui construit, par exemple, un immeuble locatif, je sais pas, de 10, 15 ou 20 logements, il doit financer la construction avant de pouvoir percevoir un loyer. Donc, il est affecté négativement par des hausses de taux d'intérêt. Pour vous donner une idée, les mises en chantier de logements locatifs, donc là, je parle pas de maison, là, logements locatifs, on s'attend à ce qu'il soit environ 20 000 cette année, alors qu'en 2021, il était 48 000. Donc, on n'a pas l'impression qu'on va dans la bonne direction. Mais
absolument.
En même temps, c'est le résultat de la politique monétaire. Là, on voulait combattre l'inflation, donc on a été obligé d'augmenter les taux d'intérêt, puis ça se répercute sur le marché de l'immobilier.
À vous écouter, à ce qu'on... D'après tout ce qu'on lit là-dessus sur la crise du logement, là, c'est pas, il y a pas beaucoup d'espoir pour que cette crise se résorbe à court, moyen terme, puis peut-être même long terme.
Ouais, non, effectivement, là, puis je suis pas le seul prophète de malheur, là, puis je suis pas un prophète, j'essaie de vous rapporter un peu ce que moi aussi je lis. Mais effectivement, il y a des facteurs structurels, là, qui laissent présager que ça va continuer à coûter cher pour se loger, pénurie de main-d'œuvre, l'immigration qui augmente, les taux d'intérêt qui sont plus élevés. Les gouvernements essayent de mettre des programmes en place pour la construction, notamment de logements abordables ou logements sociaux. Mais on prévoit quelques milliers de logements. Là, on est loin du 3,5 millions de logements manquants là, que la Société canadienne d'hypothèque et de logement nous prévoyait. Je pense qu'il faut amorcer une réflexion en profondeur sur le problème du logement. Puis sur la meilleure façon d'aider surtout les plus démunis face à ce problème, parce qu'il faut se loger. Est-ce qu'on doit stimuler l'offre de logements abordables? Les gouvernements le font un peu. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce qu'on devrait aider les plus démunis? Comment? Est-ce que le tribunal administratif du logement aurait un rôle à jouer? Des fois, on dit c'est bon, on limite la hausse des loyers, mais quand on limite la hausse des loyers, bon, on limite la rentabilité de construire des logements locatifs aussi. Donc, c'est comme un couteau à deux tranchants. Là. C'est pas des problèmes faciles là, à résoudre au niveau économique. Là. Puis aussi, peut-être être créatif, là. Des fois, on relâche certaines réglementations pour permettre l'offre de logement. Par exemple, est-ce qu'on pourrait convertir des sous-sols en logement? Moi, j'ai étudié à Vancouver dans les années 80, où le logement était très cher, mais il y avait plein de maisons, puis des maisons de gens très aisés. Mon premier logement, là-bas, je louais le sous-sol chez un juge dans un bon quartier. Donc, lui, il avait... Je pense pas que le logement, là, c'est une nécessité pour lui de rendre son logement disponible, mais en même temps, les loyers étaient tellement élevés qu'il avait décidé, puis il y en avait un paquet de sous-sols comme ça, les gens dans des maisons louaient, les étudiants, moi j'étais étudiant notamment, là, on louait des sous-sols pour...
Oui, avec une petite vue, mais un peu de lumière, moi aussi j'ai vécu la même chose.
Oui, c'est un terrain un peu en pente avec un rez-de-jardin. Donc, ma chambre était en guillemets dans le vrai sous-sol, mais le salon, j'avais une belle grande fenêtre sur le jardin. Donc, bon. C'était pas si mal. Et à deux coins de rue de la plage. Alors, je me plaignais pas.
Et moins cher que si vous aviez habité dans un rez-de-chaussée ou un premier, deuxième ou troisième étage.
Oui, c'est ça, ou un logement. Bon, après, souvent les gens, bon, on prenait des colocs, là, un peu comme ça se fait aussi à Montréal. Là. Donc, on rencontre d'autres étudiants. Souvent, quand on arrive comme ça pour étudier, tout le monde arrive de l'extérieur, on se connaît pas, mais la deuxième année, on rencontre des gens, puis on prend des colocs, puis là, on partageait des logements.
Bon, alors ça pourrait être un début de solution, plus de location de sous-sol.
Ça peut aider un peu à la marge, mais ouais. C'est pas des solutions miracles.
Ça, c'est... Non, absolument. En terminant, au moins, vous avez une bonne nouvelle.
Oui, ben, une bonne nouvelle. On vient d'annoncer les chiffres de l'inflation en septembre. On se souviendra, au mois de juillet, il avait baissé un peu. Au mois d'août, il était remonté en haut des 4 %. Maintenant, on est baissé en bas des 4 %, 3,8 %. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça marque la tendance à long terme? Si oui, ça voudrait dire que les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter, puis peut-être d'ici un an, commencer à baisser un petit peu. Du côté du prix des aliments, ils ont augmenté de 5,8 %, ce qui est supérieur à l'inflation générale, mais au mois d'août, ils avaient augmenté de 6,9 %. Donc, là aussi, l'inflation ralentit. Donc, espérons qu'on est sur la pente descendante quant à l'inflation.
Mm-hmm. Il faudra parler de Noël à un moment donné. Aujourd'hui, on en parle dans la presse. On se dit que le Père Noël ne sera pas très, très généreux.
Ah, j'ai vu le titre, là, mais là, je regardais pour les logements. Je ne l'ai pas lu encore, ouais. J'irai voir. Mais effectivement, avec le temps des fêtes qui arrive...
Lentement, mais sûrement. C'est ça, on commençait même à en parler dans ma propre famille. On se disait, cette année, on fait-tu un encan chinois? Tu sais, genre de On achète un cadeau puis on se le fait voler, là, ça peut être rigolo.
C'est ça, oui, il y a juste des jeux qu'on peut faire, on peut rendre ça agréable.
Ou une pige, ça peut nous faire faire des économies, ou les faire nous-mêmes nos cadeaux, comme Mathieu qui fait des bagues, qui fait toutes sortes d'affaires.
Ah oui.
Alors, voilà, Michel, merci beaucoup.
L'important, c'est de se retrouver ensemble. Hein. Les cadeaux, c'est un peu accessoire.
Je suis tout à fait d'accord.
L'important, c'est de se retrouver et d'avoir du bon temps.
Autour d'une bonne table, du bon manger, du monde qu'on aime et tout le monde est en santé et heureux. Alors, merci Michel, à la semaine prochaine. Je vous souhaite pas joyeux Noël parce que l'Halloween n'est pas arrivé encore.
Oui, pas tout de suite.
À bientôt.
Au revoir.